Muchísimas gracias por estar aquí. Evidentemente yo no soy Xumana Haddad, que no ha podido venir por... Hola, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Evidentemente yo no soy Xumana Haddad, que no ha podido venir por problemas personales. Soy Guillermo Altares, un periodista español que durante una época trabajó mucho en el mundo islámico. Ellos sí que son ellos. Entonces, justo a mi izquierda tengo a Habib Selmi. Es un importante escritor tunecino, que es un pequeño y precioso país del Magreb, que les recomiendo que visiten. Es novelista, sobre todo, ha escrito algunos cuentos, es autor de 7 novelas escritas en árabe, vive en París, y nació en Kairouan, que es, si no me equivoco, la cuarta ciudad santa del Islam y una ciudad preciosa, en 1951. Su última no es su última novela, La noche del extranjero. ¿Cómo lo traduzco? Los olores de Marie Claire, podía ser el título de otra de sus novelas. Y los... Y los enamorados de Bayá. Ibrahim Nasrallah, más allá, también escribe en árabe, es un poeta palestino, el pueblo sin estado. Nació en un campo de refugiados de Amán, la capital de Jordania, en 1954. Es un poeta muy importante y la poesía es una forma de expresión importantísima en el mundo islámico. Es autor de una novela que se llama Tiempos de los caballos blancos, otra que se llama Praderas de fiebre. Es autor de muchísimos poemas y es una voz muy muy importante. Y bueno, yo creo que entre ellos su lengua franca es el árabe, lo cual demuestra la diversidad y a la vez la comunicación que existe en esto. Y hay un verso de Ibrahim que dice: si los poetas pierden, el mundo no ganará, que es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí, que los poetas ganen, que los poetas hablen, y que en este mundo de incomunicación entre el mundo islámico y nosotros se rompa precisamente por la palabra de los poetas. Entonces, la primera pregunta que les quería hacer a los dos es, nosotros decimos cada vez más que existe una sola literatura en español, a pesar de las diferencias que puede haber a uno y otro lado del Atlántico y entre los diferentes países. Al final la literatura es una. Y quería preguntarles si en el mundo árabe la literatura es una, a pesar de las diferencias tanto geográficas como muchas veces dialectales.
Bonjour, sabah al-khair. Effectivement, je pense que on peut parler d'un monde arabe, c'est-à-dire d'une littérature, une seule littérature d'un monde arabe. Il y a beaucoup de... Oui, il y a... Je pense qu'on peut parler d'une littérature arabe. Vous savez, dans le monde arabe, il y a 22 pays arabes, et il y a des particularités, il y a des petites différences. Mais on peut dire qu'il y a une seule littérature arabe parce que la majorité, l'écrasante majorité des écrivains arabes, tout d'abord, écrivent en langue arabe. Et je parle de l'arabe littéral, c'est pas l'arabe dialectal. Il y a une petite différence entre les deux. L'arabe dialectal, c'est celui qu'on parle chaque jour. Et l'arabe littéral, c'est celui qu'on trouve dans la presse, dans la télévision, dans les... C'est l'arabe qu'on apprend à l'école. Et on comprend cet arabe-là lorsqu'on est allé à l'école, lorsqu'on est instruit. Mais de plus en plus, ces dernières années, il y a quand même une interférence entre les deux registres. C'est-à-dire l'arabe littéral, il y a des gens qui l'appellent l'arabe littéraire, s'approche de plus en plus du dialectal, il se nourrit de ce dialectal, parce que le dialectal est en contact direct avec la réalité. Donc ça évolue. Et comme on écrit donc dans la même langue, les dialogues parfois c'est fait en dialectal, mais on comprend. Par exemple, les Tunisiens comme moi comprennent le dialectal égyptien grâce aux films. Il y a de plus en plus de médias arabes et ces médias jouent quand même un rôle important à ce que les gens connaissent les dialectes d'autres pays. Même si c'est un peu inégal, par exemple, le dialectal égyptien est beaucoup plus connu pour la simple raison c'est que l'Égypte est un très grand pays arabe, puis il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de feuilletons, donc les gens, ils apprennent plus facilement ce dialectal. Il y a quelques thèmes qui sont différents, évidemment, dans cette même langue, cette littérature arabe, mais je trouve que ces dernières années, elle est de plus en plus proche, parce que elle tourne autour de ce qu'on appelle les tabous de la société arabe, les trois grands tabous, je pense qu'on va en parler après. C'est surtout le premier tabou qui est le sexe, évidemment. Le deuxième, c'est la religion. Et la religion, c'est-à-dire l'intégrisme, le fondamentalisme. Et puis le troisième tabou, c'est la politique, évidemment. Vous savez, comme tout le monde sait, que nous sommes loin quand même d'être des pays démocratiques, hein, c'est-à-dire... On a beaucoup de choses encore à apprendre. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit pour laisser la parole à mon ami Brahim.
Excuse me, this is the first time I speak in English and like this event. For me, the literature is very important. As a person and as one of Palestinian people, I think literature is the holy book of our soul. There is many taste in the Arab literature. The novel I can write, maybe my friend Habib cannot write it because he lives in other places, and also he can write in the Arab world in Tunisia, about Tunisia, something different as I can write about refugees camp or Jordan or Palestine. For that, I feel that our Arab literature, like it's a whole, a big book. I wrote I write. One chapter, Habib write another chapter, and another writer write another chapter. But the whole of Arab literature, I think, it's rising from the same soul, same dreams, same language, of course, and every language has the dreams, her dreams, her hope. Yeah, and for that I think we complete each other. Thank you.
Sí, esta es una pregunta para los dos, aunque me gustaría que empezase Ibrahim. Usted ha hablado de la importancia de la política y de la situación del pueblo palestino en su literatura. ¿Usted puede escribir sobre otro tema o digamos el tema del pueblo palestino es tan importante para su propia conciencia como persona, como escritor, que es muy difícil salir de ese tema? Y de manera más general y también dirigido a Habib, ¿hasta qué punto los problemas políticos influyen mucho en la literatura árabe contemporánea?
I think I am the same person when I write about Palestine or when I fall in love. Always I am the same person, but there is many subject, as also the person write or feel it. I fall in love. I love trees. I love horses. I love Palestine. I see everywhere what's happened in Palestine. They killed every morning. Killed. I cannot forget all that. I think if I also write about a tree, I think there's something from Palestine in this poem or in this novel, because every day there is the Israeli cut our trees, every day destroy our fields. How can you forget when you write about this tree here, that trees was killed there? But always there is, I think, many subjects. As any person, we thinking of our children, job, country, politics, and always many things in the same times in our souls. And we wrote about all this. But maybe there is a thin line from Palestine through every subject we wrote about it.
Ah, d'accord.
Okay. Me han dicho que hay un problema con la traducción francesa que están tratando de arreglar. Entonces, bueno, Álvaro en francés y yo haré una traducción más o menos aproximativa.
Sí. Si j'ai bien compris la question, c'est... Ah, oui, bien sûr, parce qu'il y a la vie. La vie, c'est beaucoup plus large.
Sí, claro que se puede escribir de fuera de la política, porque está la vida, que es muchísimo más amplia que la política, afortunadamente.
Mais c'est vrai, la politique aussi, elle est là. On peut pas y échapper. C'est surtout dans nos pays où vraiment on a des régimes, comme vous le savez, qui sont tristement célèbres pour leur respect de la démocratie et des droits de l'homme.
Sí, pero es evidente que la política está ahí, sobre todo en nuestros países, donde, como todos ustedes saben, hay regímenes que no tienen ninguno, muy poco respeto por los derechos del hombre y por la democracia.
Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a trois grands tabous auxquels on passe. Mais non seulement que j'ai pas d'attribution, mais celui-là il ne marche pas.
Oui, d'accord.
J'ai la poisse. Bon, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les trois grands tabous auxquels on fait face lorsqu'on est un écrivain dans le monde arabe, qu'on peut pas négliger. De plus en plus, je remarque que les écrivains de ma génération parlent beaucoup de l'être dans sa vie, c'est-à-dire la relation avec la femme, tout d'abord avec soi-même, hein, puis avec sa femme, et puis aussi on parle beaucoup de femmes. Moi personnellement, je trouve les femmes arabes très intéressantes. Peut-être elles sont un tout petit peu plus intelligentes que les hommes. Je dis ça même si je suis un homme, c'est la réalité. Elles sont en contact direct avec la vie. Elle évolue beaucoup plus que les hommes. Elle traîne les hommes, heureusement. Et moi, je viens d'un pays, par exemple, Tunisie, qui, au niveau législatif, on peut dire que ce n'est pas mal, hein, c'est-à-dire au niveau législatif. C'est-à-dire qu'il y a quelques lois pour le respect de la femme, mais ça remonte à l'époque d'un chef d'État qui s'appelait Bourguiba. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un peu fasciné par la libération de la femme, parce qu'il a fait ses études à la Sorbonne. Mais c'est vrai, la société, c'est autre chose. Elle ne suit pas la société. Maintenant, il y a même une régression. C'est-à-dire, il y a des lois, mais la société ne suit pas. Et le plus important, c'est la société quand même. Il ne suffit pas d'avoir des lois. Et c'est vrai, de plus en plus, j'écris sur ces femmes-là qui sont en train de vivre leur vie au quotidien et qui, quand même, font, malgré ça, avancer la société. Donc, on peut toujours, effectivement, pour répondre à la question, on peut heureusement parler de la vie, quoi, qui est plus variée, plus multiple, plus diversifiée, pour contourner ce climat politique qui n'encourage pas trop à l'écriture.
¿Cuál dirían que es ahora la capital literaria del mundo árabe? ¿Cuál es el país donde se produce más y mejor literatura?
Okay, for a long time, Cairo, this is the capital of the Arab literature, and Beirut became the capital of literature. Baghdad was very big and important capital. And always there's many writers in Egypt make Cairo a capital. There is many important writers make Beirut a capital of the Arab literature. Also Baghdad. Now I think there is, we can see the Arab literature now. Why? Because many capitals of Arab world, many writers rise and write very important novels and poetry and short stories, everything. Now I think there is an Arabic literature really, because the whole Arab literature write the good literature. Like, but when we see, speak about publishing, now Beirut, it's very important for us. Yeah, I live in Amman, but my books published in Beirut, and also my friend Habib.
Je dirais à peu près la même chose. Hein, c'est au niveau capital, si on veut parler, c'est-à-dire de talent, de l'importance de la création. Oui, le Caire, l'Égypte d'une manière générale, et même le Liban, si c'est un tout petit pays, ils ont joué un rôle très important. J'aimerais parler d'un petit détail auquel que mon ami Ibrahim n'a pas cité. C'est ce qu'on appelle la Renaissance. Je reviens un peu au 19e siècle. Ce qu'on appelle la Renaissance dans le monde arabe, Renaissance entre guillemets, parce qu'on se demande maintenant si c'est vraiment il a eu Renaissance ou non, comme à l'occidental, est apparu vers le 19e siècle, après la campagne de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1798. Et c'est comme ça que les historiens ils datent la Renaissance arabe. Du coup, on revient à la langue arabe qui a été un peu oubliée par l'occupation turque. Pour la rendre plus vivante, on fait des dictionnaires. Et c'est vrai, tout ce travail-là a été fait à Beyrouth, essentiellement, et un peu aussi en Égypte. C'est-à-dire, ils ont donc ces pays-là, ils sont, on peut dire, qu'ils jouaient un rôle de leader dans la Renaissance, pour faire revivre la langue arabe, la rendre plus maniable, plus proche de la réalité. C'est une question très importante. Et bon, évidemment, les traducteurs, les premiers traducteurs aussi, qui ont traduit les grandes œuvres européennes étaient des Libanais, parce qu'ils connaissaient le français, grâce aux missions françaises et chrétiennes qui allaient là-bas, qui fondaient des écoles. Tout s'explique par l'histoire. Puis la première imprimerie, par exemple, la première imprimerie arabe, elle était en Égypte et aussi au Liban. D'ailleurs, les Égyptiens et les Libanais se battent qui a commencé le premier, mais c'est vrai, les premiers textes imprimés en arabe vers le 19e siècle ont été publiés, donc imprimés au Liban et en Égypte. Ça, au niveau historique, oui, personne ne conteste ça. Mais là où je rejoins mon ami Ibrahim, c'est qu'après, si on veut parler de leader au niveau qualité, d'accord, toujours il y a du grands écrivains libanais, toujours il y a du grands écrivains égyptiens, bien sûr, mais aussi maintenant il y a du grands écrivains tunisiens, jordanien, palestinien, irakien, mauritanien, libyen, partout, surtout le roman. C'est curieux, hein. C'est Le roman a connu ces deux dernières décennies, mais vraiment une évolution importante. Et moi, je pense pas que c'est par hasard, ça, parce que le roman, c'est peut-être le genre, comme vous le savez, qui exprime peut-être mieux l'évolution de la société. Et il y a vraiment une explosion de romans maintenant. C'est pas évidemment comme ça s'est passé en Amérique latine, le boom, évidemment, on rêve de vivre la même chose, mais non, on est quand même, on n'est pas aussi important que ça.
Sí, precisamente sus obras, por ejemplo, no están traducidas al castellano y es verdad que hay un déficit enorme de traducción de la gran literatura árabe al castellano. Precisamente me gustaría que contasen un poco quiénes son sus influencias, quiénes han sido los grandes escritores en árabe que les han influido y que a la vez si podían convertir eso en cierta medida unas recomendaciones de qué autores le podría o debería leer el público que estuviese interesado en conocer de cerca la literatura o los grandes nombres de la literatura en árabe.
I think the Spanish literature is very well known in the Arab world, and the American, South American literature is very, very known in the Arab world. Sometimes we read some books of Marquis or Yusa or before the French or the English. There is many books now translated to Arabic, and I think now many writers of from here they are local for us, because there's a real part from our life and our reading and our thinking also, and our writing. From Spanish, I think Lorca was very important for many Arabs writer. Now there is many names from here, or from Argentina, from Brazil, from everywhere, and really everyone read these books and loves these books very much. I don't know how what I can say about the Arab books you can read, because I think there is a few books in Spanish. I think it's not enough. Many people knows very old Arabic books. Like there is always Najib Mahfouz, there is Mahmoud Darwish, there is Emil Habibi, Abd al-Rahman Munif. Many of great names, really, you can read it, or read them.
Puisqu'on est en Colombie, je vais commencer en parlant de mes influences, évidemment, par le grand Gabi. Hein, je me rappelle, je vous raconte une petite histoire. Lorsque j'étais étudiant, j'étais encore un écrivain novice, et j'ai découvert par hasard Garcia Marquez grâce au français, Son temps de solitude. Il était publié par, je me rappelle très bien, par les éditions du Seuil. C'est une très grande maison d'édition à Paris. Et moi, comme je suis tunisien, on est un peu francophone, notre deuxième langue c'est le français. Et j'ai vu le livre, je pense vers les années 70, au début. Il est traduit par, je me rappelle toujours du traducteur, même Claude Yveline Durand. J'ai tellement aimé, il n'était pas encore traduit en arabe à cette époque-là, que j'ai appris par cœur la première page. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je me rappelle très bien de ces phrases-là, j'ai oublié un peu, mais bien des années plus tard, le colonel Aurélien Dubuinda devait se rappeler ce lointain après-midi où son père emmena voir la glace pour la première fois. Macondo était alors un village de 20 maisons construites en glaise et en roseau au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes coulaient sur un lit de pierre blanche et énorme comme des œufs préhistoriques. Ça m'a marqué ce livre-là, comme a marqué la majorité des écrivains de ma génération. Évidemment, après, j'ai découvert les nouvelles, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, les nouvelles de Garcia Marquez, surtout la sieste de mardi. J'étais très content lorsque je viens de lire la première partie de ses mémoires, j'ai vécu pour raconter. Il parle justement de cette nouvelle, la sieste de mardi, qui est excellente. Et mais après, j'ai découvert un autre écrivain aussi qui m'a beaucoup plu, qui est un peu différent, un Argentin, plus proche des Européens, qui s'appelle Jorge Cortázar, qui est très connu dans le monde arabe, mais qui est malheureusement mal compris parce qu'il est plus difficile, où il écrit différemment. J'adore ses nouvelles, surtout les armes secrètes. Je lis comme ça en français. Il est vraiment excellent. Pour moi, c'est l'un des meilleurs nouvelistes du monde. Après Tchekhov, évidemment, Edgar Allan Poe, à laquelle, d'ailleurs, il a écrit la préface en français de Conte extraordinaire. Bon, je peux rester des heures à parler de l'Amérique de latino, la littérature de latino-américaine essentiellement colombienne. Mais c'est vrai aussi, j'ai varié, après j'ai découvert les Américains, j'ai beaucoup aimé, par exemple, un écrivain qui s'appelle Raymond Carver. Tout ça, c'est grâce aux Français, c'est-à-dire après, les traductions arabes viennent, c'est-à-dire... j'ai lu le russe, pour les influences, c'est-à-dire je suis toujours varié mes lectures. J'avoue aussi, il y a des années où je n'ai pas lu la littérature française. J'ai trouvé que le français, après ce qu'on appelle le nouveau roman, le roman s'est scolarisé un tout petit peu, c'est devenu moins humain, c'est devenu beaucoup plus formaliste, c'est sec un peu, et ça ne correspond plus à ce que j'ai cherché dans un roman. Et heureusement, il y avait la grande littérature de l'Amérique latine à cette époque-là. Évidemment, j'ai oublié aussi Juan Rulfo, Pedro Palomar, qui est vraiment excellent comme roman, ce petit roman. Bon, qu'est-ce que je vous recommande comme écrivain arabe, comme dit Ibrahim, il y en a tellement maintenant, mais il faut évidemment lire, commencer surtout par Mahfouz, c'est une valeur sûre, c'est celui qui a eu le prix Nobel, parce qu'il donne quand même une idée de ce qu'a vécu le monde arabe au début du siècle.
Quel roman, la trilogie du Caire?
Par exemple, la trilogie du Caire, qui est vraiment à mon avis, le summum de son art. Mais bon, il y a beaucoup d'autres écrivains qui sont très très importants, de la nouvelle génération, ils sont de plus en plus disponibles maintenant. Je ne sais pas s'ils sont traduits en espagnol, mais ils sont traduits en français, ils sont traduits en anglais, de plus en plus en italien. Et puis il y a les poètes, évidemment. Nous, on a une très grande tradition poétique dans le monde arabe. La poésie est quelque chose de très très important. Donc il y a Darwish, par exemple, un très grand poète palestinien qui vient de mourir. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est vraiment exceptionnel, ce poète-là. Toute son œuvre est presque traduite en français. Par exemple, en espagnol aussi, j'imagine. Elle est disponible. Il y a aussi Adounis, un très très grand poète. Moi, je suis romancier, mais je parle des poètes comme ça pour ne pas être taxé de... Je parle que des romans. Mais les romanciers, il y a beaucoup. Mais j'aimerais aussi qu'on s'intéresse un tout petit peu à ce qu'on appelle la nouvelle génération, qui est la mienne, qui n'est pas, en fin de compte, jeune. Hein. On tourne autour de 60, 50. Il est temps peut-être qu'on soit un peu lu. Mais c'est vrai, il y a tellement de... Le monde arabe, comme je vous disais tout à l'heure, c'est 22 pays. Hein. Maintenant, il y a une vraie explosion. Hein.
Mahfouz, la trilogía del Cairo está traducida, yo creo que en Edasa, además acaba de salir en bolsillo. Y Darwish está casi toda su obra en una editorial valenciana que se llama Pretextos, lo que no sé si se distribuye aquí. Volviendo a la política, la década que acaba de terminar ha estado marcada por el 11 de septiembre y por la guerra de Irak, que levantó muros de incomprensión entre el mundo árabe, el mundo islámico de manera más general y occidente, y se ha notado en muchísimos aspectos, desde la casi victoria de Le Pen en Francia hasta cuando uno viaja a Estados Unidos. A mí me ocurre siempre que voy, me preguntan por qué tengo tantos sellos de países árabes en el pasaporte y casi uno tiene que disculparse y explicarlo. ¿Creen ustedes, primero, que eso es cierto, que hay muros de incomprensión entre el mundo islámico y, bueno, el mundo árabe por extensión, el mundo islámico, y en qué medida la literatura puede ayudar a que o las relaciones culturales pueden ayudar a que esos muros se vayan derrumbando poquito a poco?
Je commence le premier cette fois-ci. Je pense qu'elle peut faire beaucoup de choses, à condition évidemment de lire cette littérature et de la lire sérieusement. Parce que, pour la simple raison, c'est que la réalité d'un peuple, d'une culture, c'est dans la littérature, c'est pas dans la politique. Vous connaissez les hommes politiques, ils vendent des discours, hein, pour... Et c'est vrai, ce qui s'est passé le 11 septembre, et puis tout ce qu'il y a, la guerre d'Irak, tout ça, ça nous a traumatisés, évidemment. Mais ça aussi, ça se reflète dans la littérature, mais il vaut mieux connaître ça à travers la littérature que à travers les hommes politiques. Moi, je me méfie beaucoup de la politique, même si je sais que c'est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Mais je pense qu'un roman, lire un bon roman, par exemple l'Irakien, écrit après ce qui s'est passé en Irak, je pense qu'il nous illumine, il nous donne une vérité, mais vraiment, c'est indescriptible, je ne peux pas décrire ça, comment la littérature arrive à faire aimer. Mais au moins, on touche quelque chose, il y a quelque chose de palpable à travers la littérature. Et je pense que ce que peut dire la littérature, aucun autre, la littérature, que ce soit poésie ou théâtre ou les arts d'une manière générale, ne peut pas être dit par la politique, je pense. C'est ce que je pense. Vraiment, j'ai confiance beaucoup en la littérature. Je pense que moi, lorsque je lis García Márquez, c'est vraiment, je vois toute l'Amérique latine. Lorsque je lis La Cesse de Mardi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vois tous les problèmes de la Colombie et via ça l'Amérique latine à travers d'une toute petite histoire de meurtre d'une dame qui a débarqué pendant une sieste pour voir le tombeau de son fils qui a été tué la veille. Il est allé à l'église pour chercher la clé du cimetière. On voit tout ça, la poussière, les arbres chétifs, la chaleur, les gens qui le regardaient à travers les fenêtres. C'est très important la littérature, c'est vraiment très fort. C'est beaucoup même plus fort que l'image, je trouve. Je crois beaucoup à la littérature.
Always I said that God have three holy books and he cannot change this world. But it doesn't mean that we don't believe in literature. I think to be with us this morning, this is the powerful of literature. To know each other through our poems or novels, this is a kind of powerful of literature. I think we need literature every time, not in this time, just in this time, before September and after September and always. And when we forget literature, I think we forget some of our souls, part of our souls. For that, I feel when I read that I am alive, I am in life. But when I left read or writing, the death come and take a part of my soul, a part of my body. I think with literature we can do many things. We can know each other really, without masks, without any words, without any yes, without the media, which it's destroy our images always in this time. For that, I need literature as a writer, as a reader, as I need it as a writer.
Antes Habib ha hablado de las, digamos, las dos censuras o a los que se enfrentan los escritores en el mundo árabe a la hora de la ruptura de tabúes. Me gustaría que hablasen de ella. Uno es la censura política, digamos, el desgraciadamente casi todos los países árabes viven bajo regímenes autoritarios, y otro es la censura religiosa, ¿no? El aumento y el peligro del fundamentalismo. El propio Mahfoud, si recuerdo bien, fue agredido en una calle del Cairo. ¿Podían hablar de estas dos censuras? ¿Cuál es peor? ¿Cuál es más fácil de romper? ¿Cuál provoca más problemas a la hora de la creación literaria o de la libre expresión, el ensayo o la poesía?
Tout à l'heure, j'ai parlé des trois tabous. Je pense que le sexe, les écrivains, ils ont réussi à faire tomber ce tabou, je pense. Parce que maintenant, de plus en plus, on trouve des romans où vraiment ils sont, où on aborde vraiment le problème de la sexualité. On l'aborde même avec beaucoup de courage, à tel point qu'il y a des romans qui sont classés parfois pornographiques. Hein, ils vont trop loin. Et c'est un mouvement qui a commencé vers les années fin 80, 90. C'était un mouvement inéluctable. Parce qu'il accompagne en quelque sorte aussi ce qui se passe dans la société arabe. Parce que les Arabes aussi, ils vivent comme tout le monde. Ils respirent, ils bougent, ils ont des corps, ils aiment. Et un jour ou l'autre, ça doit sauter, ces choses-là. Même s'ils essaient, les familles essaient de contourner ça, les traditions essaient d'étouffer ça, mais il y a toujours des jeunesses, et chaque fois, cette jeunesse avance un peu. Hein, surtout, il y a quelque chose qui est très caractéristique de la jeunesse dans le monde arabe. Je ne sais pas si c'est le cas en Colombie ou en Amérique latine. Elle copie beaucoup l'Occident. L'Occident, pour nous, est trop présent, entre guillemets. C'est-à-dire, on s'intéresse beaucoup à l'Occident. Essentiellement, lorsque je dis l'Occident, c'est la France pour les Maghrébins, les pays Nord d'Afrique, et la Grande-Bretagne pour les Orientaux. Et c'est vrai, ça évolue. Donc on peut dire que ce tabou-là vraiment est tombé ou il est presque en train de tomber. Mais il reste les deux autres grands tabous. Et c'est vrai, c'est un problème. Et d'ailleurs, il y a un lien entre les deux. Parfois, on a l'impression même qu'il y a, on dirait qu'il, comme s'il y a un accord taciturne entre les deux secrets. C'est-à-dire, les régimes arabes, ça l'arrange aussi qu'il y a des problèmes comme ça pour dire, écoutez, hein, on peut pas faire la démocratie, sinon, on va regarder qu'est-ce que vous allez voir. Vous allez vivre comme en Iran. Regardez comment ça se passe en Iran. Et les gens, ils ont peur. C'est-à-dire, la politique, elle se sert des fondamentalismes pour reculer toujours les sciences démocratiques. Par exemple, en Tunisie, tout le régime, toute la philosophie, le discours du régime est basé sur ça. D'autant plus qu'en Algérie, qui est un pays voisin, qui a connu ici des dernières années, des années très difficiles, il y a beaucoup de meurtres, il y a presque une guerre civile. Pourquoi? Parce que le régime il était un peu plus démocratique, il a organisé des élections plus ou moins libres, et c'est les intégristes qui ont gagné. Du coup, le régime a paniqué, il a annulé les élections, c'est l'armée qui a pris le pouvoir, et les intégristes, ils sont allés dans le maquis, ils ont pris les armes. Le point de départ, c'était ça. Donc, moi, je pense que ces deux tabous, ils sont vrais, ils se servent l'un de l'autre. Vraiment, ils se servent l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qui est plus difficile à faire tomber? Bon, c'est vrai, le fondamentalisme, les écrivains, nous, on commence aussi à l'attaquer. De plus en plus, on est plus courageux, de plus en plus. Même s'il y a des fatwas, vous savez ce que c'est que ces fatwas, c'est-à-dire la grande mosquée, par exemple, d'Al-Azhar, qui est l'équivalent, pour aller plus vite, de le Vatican, par exemple, il décrète une loi hein, religieuse pour dire que tel écrivain, par exemple, il a blasphémé. Et c'est vrai, parfois, on ne distribue plus ces livres-là, même parfois on le menace de mort, et les écrivains qui ont quitté leur pays, surtout en Égypte. Mais je trouve que de plus en plus aussi les écrivains, ils sont courageux, ils attaquent ce problème de fondamentalisme, surtout dans le roman. Mais c'est vrai, la politique, c'est dur. Je dirais, moi, c'est le plus coriace, la politique. Parce que c'est vraiment, les régimes, ils tiennent beaucoup à rester là où ils sont. Ils ne veulent pas bouger. Hein. On peut pas, par exemple, à la limite, ils nous laissent un peu de parler, un tout petit peu de fondamentalisme, parce que ça les arrange aussi. Mais parler de la démocratie ou directement les viser, je pense que c'est difficile. Mais cela dit, il y a aussi des différences entre les pays arabes. C'est pas la même chose. Il y a des régimes qui acceptent certaines choses, d'autres non. C'est trop varié le monde arabe, c'est 22 pays. Hein, c'est...
Entonces, yo creo que es el momento de que pregunten ustedes. No sé si hay un micrófono en la sala. Nos quedan como unos 15 minutos y estaría muy bien que pregunten directamente ustedes a ellos lo que quieran. Sí.
Gracias. Muy interesante los planteamientos sobre esas diferencias y esos muros que hay que derrumbar entre el mundo árabe y Occidente. Mi pregunta va dirigida al señor Habib o al otro escritor en cuanto a qué han hecho ustedes como escritores en favor de derrumbar esos muros en un tema muy concreto que me interesa, que es el de la mujer musulmana frente al uso de la burka o del chador, cuando en Francia el presidente Sarkozy acaba de determinar que en su territorio no se usarán estas marcadas diferencias entre las mujeres. Yo, de manera anecdótica, les quiero contar que yo tengo un par de buenas amigas árabes, musulmanas, y por fuera del país, pues se comportan, ve uno, con alegría, con entusiasmo, como occidentales. A veces pienso yo que el que nuestros códigos de ética y moral los rijan los hombres, el sexo masculino, va un poco en contravía también de lo que las mismas mujeres quieren expresar. Y esto, para terminar, aquí nosotros en Colombia se acaba de aprobar, precisamente fue muy controvertido el tema del aborto, porque quienes regían, debatían y aprobaban si se ponía en marcha esta ley eran los hombres, pero las mujeres y la proponente de esta iniciativa fue una mujer con mucho valor. Reitero, ¿qué han hecho ustedes en favor de que estas marcadas diferencias no se hagan manifiestas como se llevan hoy día? No soy feminista, ¿no?
Je sais pas, il y a beaucoup de questions, je pense, dans votre question. Et puis il y a un point de vue, tout d'abord. C'est-à-dire, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et de respect, mais je n'ai pas très bien compris la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'écrivain ou quoi? Les pays, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pays arabes? C'est-à-dire, vous pensez qu'est-ce qu'on pense nous en tant qu'écrivain, qu'est-ce que je pense moi de ce qui a été fait, ou qu'est-ce que pour vous informer, qu'est-ce que, par exemple, les régimes arabes, ils ont fait? Je n'ai pas bien, très bien saisi la... Non?
C'est... Vous comme écrivain.
Ah.
Et ellos comme escritores.
Ah.
C'est vous comme écrivain.
Qu'est-ce qu'on a fait pour le... Ben, un écrivain, il ne va pas faire des lois. Hein. C'est... Un écrivain, il écrit. C'est un homme simple. Mais ce que je pense, moi, par exemple, et ça tombe bien, vous parlez à moi, vous adressez à moi, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les pays arabes, ils sont différents, surtout dans ce domaine-là. Ils sont vraiment très différents. Par exemple, je vais commencer par une petite chose, la polygamie. La polygamie. La polygamie, par exemple, dans presque tous les pays arabes, elle est permise. Parce qu'on dit que dans le Coran, hein, elle est permise. Et moi, je pense, à mon avis, lorsqu'on lit bien le Coran, parce que le Coran, c'est un texte très élastique, on peut le faire dire beaucoup de choses parfois. Pas partout, mais surtout concernant la polygamie. Parce qu'il y a un verset coranique qui est souvent cité, je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez se marier avec une, deux, trois, quatre femmes, c'est à peu près ça. Et si vous avez peur de ne pas être juste, contentez-vous d'une. C'est le Coran. Hein. Et vous ne serez jamais juste. Ceux qui les arrangent, ils restent, ils oublient cette dernière phrase. Non, mais c'est vrai. Ça dépend aussi comment on lit le Coran. En Tunisie, je vous ai parlé de ce Bourguiba, ce fameux qui était très occidental, il était un peu agité. Il a fait une loi. Et la polygamie, elle est interdite en Tunisie. On se contente d'une seule femme. Mais dans tous les autres pays arabes, elle est permise. Mais, elle est permise dans les textes. Mais rarement, moi, honnêtement, dans la réalité, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont mariés avec deux, trois femmes. Une, déjà, ça suffit, hein. C'est beaucoup une seule femme. Trois ou deux, c'est vraiment. Parce que les femmes arabes aussi, elles ne sont pas faciles, hein. Vous ne croyez pas qu'elles sont soumises, ce cliché qu'on voit dans les films, c'est faux. Elles ont un certain pouvoir, elles sont cachées, elles ont des armes secrètes. Bon, ça, bon, c'est vrai, nous, en tant qu'écrivain, moi, personnellement, j'aime beaucoup les femmes. C'est vrai, je les trouve très intelligentes. Je trouve, tout à l'heure, je dis ça et je le répète, je trouve que les femmes arabes, elles sont plus fines que les hommes. Elles sont plus intelligentes. Et moi, je compte beaucoup sur elles pour qu'elles nous poussent. Nous, les hommes, on aime garder la tradition parce que ça nous arrange, en fin de compte. Hein, on a un certain pouvoir. Les femmes, elles nous bousculent un tout petit peu. Mais tant mieux. Hein. Et à mon avis, ça se passe petit à petit, mais ça va arriver. Ça va arriver. Quant à l'histoire du tchador, ça, c'est une question française, ça. Ça n'a rien à voir avec le monde arabe. La France, c'est la France. Le monde arabe, c'est le monde arabe. Si vous voulez connaître mon point de vue au tchador, moi, je suis contre le tchador. Pour la simple raison, c'est que j'aime voir les cheveux des femmes parce que j'adore les femmes. Voilà.
Hace algún tiempo vino a Colombia un escritor venezolano que dijo: los escritores deben hablar. Todo lo que callen podrá ser utilizado en su contra. Sin ser machista, yo sí quiero, desde mi punto de vista de gestor cultural, preguntar si ese venezolano lo que quiso sugerirnos es que el escritor debe cumplir una función social de reivindicación en el caso de las mujeres o de reivindicación también política, social y de pronto hasta económica. ¿Ustedes qué opinan de esa versión de su colega venezolano?
I think the writer must be talking, and but in the Arab world or and many areas in this world, he must be talking and he must be survive also, because every day maybe he killed, maybe he find himself outside of his country, and every day the criminals we see in the television, in the streets, and everywhere. I think it's make us talk and talk and write and write and. With the brave words, and if we silent, who's can write?
Gracias. Cuando me leí el libro de Leyendo a Lolita en Teherán, Reading Lolita in Teherán, no me acuerdo la autora, me impactó mucho. Quiero preguntarles si todavía las mujeres en diferentes países árabes tienen tanta dificultad para acceder a la cultura, a los debates literarios, a expresar sus opiniones, y todavía tienen que hacerlo más o menos clandestinamente o contra la corriente.
Le livre dont, que vous avez cité, c'est un livre iranien, je pense, un écrivain iranien. Ouais. Bon, tout d'abord, je tiens à faire une petite différence, c'est que déjà, comme ça, les Iraniens ne sont pas des Arabes. Les Arabes, ils ne sont pas des Iraniens, on est des musulmans. Ouais. C'est-à-dire, peut-être il faut commencer par des choses très simples, c'est que souvent on confond arabe-musulman. Vous savez, dans le monde, il y a 1 milliard de musulmans et 300 millions d'Arabes. Ils ne sont pas majoritaires. Mais je vais vous dire pourquoi on fait souvent la confusion, je vais revenir. Et autre chose aussi, le deuxième point, c'est que le plus grand pays musulman n'est pas arabe, c'est l'Indonésie. Il n'a rien à voir avec le monde arabe. C'est une autre réalité. Mais cela dit, il y a des points communs, il y a l'islam. Et souvent, on fait cet amalgame entre arabe et islam, parce que c'est vrai, dans notre inconscient, l'islam, c'est arabe. Parce que c'est les arabes qui l'ont créé. Bon, les croyants, ils disent, il est tombé du ciel. Moi, je pense, non. Le Coran, il a été écrit par Mahomet. Moi, je ne crois pas à cette histoire tombée du ciel. Révélée, c'est-à-dire, comme on dit. Donc, du coup, ça a resté comme ça. Mais pour revenir à c'est vrai, il y a des points de ressemblance entre la femme arabe et la femme iranienne, et la femme musulmane et la femme arabe d'une manière générale. Il y a toujours des problèmes, évidemment. Il y en aura toujours. Parce que, moi je pense que la meilleure chose que l'Occident a faite, c'est la libération de la femme. C'est pas facile. C'est pas facile d'accepter que la femme soit présente. Parce qu'elle fait peur, la femme. C'est ce que je pense personnellement. Donc, du coup, on fait tout pour l'écarter, pour l'éloigner. Mais, cela dit, dans certains pays arabes, dans certains milieux aussi, parce qu'il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, si ça dépend de quel milieu on parle aussi. Il y a des milieux qui sont occidentalisés, qui vivent à l'occidental, qui sont cultivés, qui sont riches. Ben, les femmes, elles sont mieux. Dans d'autres milieux qui sont pauvres, qui sont mal éduqués dans le sens de instruits, hein, mal évidemment la femme elle est exploitée. Par exemple, vous prenez l'Arabie Saoudite aussi. Faisons une petite comparaison entre l'Arabie Saoudite. J'espère qu'il n'y a pas de Saoudiens ici, mais je ne vais pas dire des méchancetés. Mais par exemple, l'Arabie Saoudite où il y a la Mecque et tout ça, bah, évidemment la condition de la femme, ça n'a rien à voir avec la femme libanaise ou tunisienne ou palestinienne. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même des différences, qu'on le veuille ou non. Soyons positifs, c'est-à-dire ne parlons pas le tout ou rien. Non, il y a pas mal de pas qui ont été faits dans certains pays. Il faut les encourager, il faut les accompagner, il faut inciter à ce que ça bouge partout. Moi, je trouve que, par exemple, le Maroc, c'est pas comme l'Arabie Saoudite. Le Liban, c'est pas comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, vraiment, une femme, elle ne peut pas conduire une voiture, par exemple. Elle n'a pas le droit. Lorsqu'elle sort, elle doit cacher son visage. Il n'y a pas la mixité. Les filles sont d'un côté, les garçons sont dans un autre côté. Dans d'autres pays arabes, non. Les filles côtoient les garçons dès qu'ils sont jeunes. Ils s'apprennent à se connaître. Et petit à petit, il y a pas mal de choses qui se créent. À l'université, c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est pour cela que lorsqu'on parle du monde arabe, surtout d'un sujet aussi important et aussi grave qu'est la femme, il faut savoir nuancer. Parce que ce n'est pas la même chose. Mais c'est vrai, d'une manière générale, moi, en tant qu'écrivain et en tant qu'homme, je ne suis pas satisfait de la condition de la femme. Je trouve que la femme, elle mérite mieux. Et j'espère que ça va bouger.
Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Si ustedes consideran que existen diferencias importantes entre los escritores árabes que escriben en países occidentales y entre escritores árabes que escriben entre escritores en países árabes. Y si existen estas diferencias importantes, ¿cuál sería la más importante?
Je pense que cette question est adressée plus à moi puisque je vis en Occident. Soyez sûrs, il n'y a pas une grande différence à ce niveau-là, au niveau de cette question de femmes, de liberté fondamentale. C'est loin, au contraire. Peut-être ceux qui vivent dans les pays arabes, ils sont beaucoup plus violents, quoi. Par exemple, en Égypte, il y a un écrivain égyptien qui s'appelle Sonallah Ibrahim, peut-être qu'il traduit en espagnol. Il parle beaucoup de fondamentalisme. Ses romans, ils sont traduits en français, je ne sais pas s'ils sont traduits en espagnol, probablement ils sont traduits en espagnol, je pense. Il est très très violent, il est très courageux, pourtant il vit en Égypte. Et l'Égypte, c'est le pays le plus dur, il y a Al-Azhar, cette institution, ça joue le rôle du Vatican, mais un Vatican d'il y a 2 siècles, 3 siècles, c'est-à-dire où l'Azhar, c'est très important, il joue un rôle important, il condamne 10 livres, il produit des fatwas et des choses comme ça, et pourtant il y a des écrivains égyptiens vraiment qui sont très courageux. La question de la femme aussi, par exemple récemment j'ai lu un roman d'une romancière libanaise très connue qui s'appelle Alawiya Soba. Elle vit à Beyrouth, mais vraiment au niveau de sexualité et tout ça, liberté sexuelle, c'est un livre qui va très loin. Donc ce que j'ai dit, moi je comprends votre question, ça ne vient pas du fait que je vis en Occident, pas du tout. Et d'ailleurs, avant de vivre en Occident, j'ai écrit des livres, hein. J'ai immigré un peu, j'étais écrivain, je parlais de la même manière. Hein. C'est pas parce qu'on est... Et d'ailleurs, même si je vis en Occident, mes livres, je les écris en Occident, mais ils sont vendus où? C'est pas les Français qui les lisent, en arabe. Avant, tout d'abord, moi j'écris en arabe, je n'écris pas en français. Donc mon vrai public, c'est le monde arabe. Et je suis publié à Beyrouth. Donc c'est le public qui m'intéresse, c'est surtout le public arabe. J'écris à ce public-là. C'est ça qui m'intéresse.
¿Tendría tiempo para una última pregunta? Sí, no, pero es la traducción.
Pues yo sé que sobre literatura el encuentro, yo personalmente pienso que la vida es política. No hay nada que no sea político. Pero me muero de las ganas de tenerlo aquí, que me cuente cómo está, qué pasa con Palestina. Es decir, a corto tiempo... Porque todo lo que nos llega acá es un caos, que jamás está encima. Cuéntenos de su Palestina, en el presente, en un minuto.
Through 17 years ago, the Palestinian try to have peace with Israeli. But what's happened, everything became worse and worse. The killed is more and more. The destroyed buildings, houses, fields, more and more. The Palestinian talk with Sharon, who killed many of them in Sabra and Shatila. And the Palestinian talked to Peres and another leaders of Israel. But we have nothing until now. We lose every day our land, our children. Every day there is a child or a man or a woman killed. I think we live in the deep, dark point this. Because I think there is the Israeli cannot live with peace.
Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a ellos y solo se me ocurre convocarles en el High Festival que va a haber en Beirut en abril y que, bueno, vengan a descubrir, por favor, a autores maravillosos como ellos.